Les enfants ont un accès et un rapport très différent à la nature selon leur classe sociale. C'est ce que montre le sociologue Julien Vitorès dans son livre paru le 21 août 2025 aux éditions La Découverte, un livre intitulé « La nature à hauteur d'enfant, socialisation écologique et genèse des inégalités ». Julien Vitorès a donc enquêté sur le rapport des enfants à la nature dans des écoles maternelles, dans trois écoles maternelles, et il est dans le Briançonnais en ce moment, car invité par Pauline Probeuf, sociologue installée à Villars-Saint-Pancras. Hier soir, il était à la librairie de la Gargouille pour présenter ce livre et demain, il animera un atelier, on y reviendra. Et je suis en ce moment avec le concerné, Julien Vitorès, et également avec Pauline Probeuf. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à Fréquence Mistral pour nous parler donc de cet événement et de ton travail, Julien. Donc déjà, j'aimerais peut-être rapidement vous demander de vous présenter un petit tour de table.
Oui.
Très bien. Ben, moi, je m'appelle Julien, du coup, Julien Vitorès. Je suis enseignant en sociologie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et j'ai soutenu une thèse il y a de ça 2 ans, et dont j'ai repris les principales conclusions et le contenu dans l'ouvrage que je viens présenter aujourd'hui. Voilà.
Pour faire un ouvrage qui serait plus grand public.
Oui, c'est l'idée de la collection, c'est donc à la découverte dans la collection L'Envers des Faits, qui est une collection qui essaye de proposer des enquêtes de sociologie dans lesquelles on voit l'enquête en train de se faire et qui ont pour vocation aussi de faire voir à un plus large public ce que c'est que la sociologie et comment on la pratique.
Et Pauline ?
Et Pauline Probeuf, donc je suis aussi sociologue. Moi, j'ai soutenu une thèse en 2021. Bien enceinte, et j'ai eu depuis 2 enfants et je me suis installée sur le territoire du Briançonnais au moment où j'étais dans la dernière année de ma thèse. J'ai continué un petit temps dans le milieu académique à Paris 8 d'abord en tant qu'enseignante attachée temporaire de recherche, donc c'est des contrats d'un an, puis à Lyon. Puis ensuite, voilà, d'autres projets plus personnels se sont dessinés et j'ai décidé de bifurquer un peu en quelque sorte. Et je travaille aujourd'hui en tant que chercheuse, mais pour une structure de l'ESS qui s'appelle Sulitest et qui a vocation à promouvoir l'éducation à la durabilité dans les facultés, dans le milieu universitaire. Donc il y a un petit lien avec la thématique du livre de Julien.
J'allais demander, est-ce que c'est comme ça que tu as découvert Julien ?
Pas vraiment. En réalité, pour être tout à fait honnête, le lien avec Julien s'est fait de manière purement intéressée, puisque ayant soutenu une thèse et écrit un manuscrit, je cherche aussi à publier, à prendre le temps maintenant que j'en ai un petit peu, pour écrire un livre également grand public. Et donc, le lien s'est fait de cette façon-là. Et Julien et moi, on ne se connaît pas personnellement, à part être entre guillemets collègues dans le milieu académique. Et l'ouvrage est tout récent, puisqu'il l'a publié à la fin du mois d'août, l'opportunité s'est présentée de venir le présenter ici à Briançon, nous avions déjà reçu en avril Céline Marty, qui est philosophe. Et l'idée, c'est de vraiment débuter un cycle de conférences en sciences humaines et sociales pour promouvoir les travaux des chercheurs et chercheuses dans le grand public et dans tous les territoires.
Et ça, tu le fais pour toi, à
Exactement.
Titre de chercheuse
intéressée. C'est bénévole et pour l'instant... Il y a certainement quelque chose qui va se monter, un collectif ou une association, parce que certaines personnes autour de moi, dont Maxime, le libraire de la Gargouille qui héberge la conférence, sont intéressées pour m'aider dans cette vulgarisation des sciences.
Oui, donc une conférence qui a eu lieu donc, hier soir à la librairie de la Gargouille, pendant laquelle tu as présenté ton travail, Julien. Et demain, samedi, tu organises un atelier avec adultes et enfants, peut-être un petit mot là-dessus rapidement ?
Oui, donc c'est un atelier proposé là aussi par Pauline, au cours duquel on va accueillir d'un côté, on ne va pas forcément les séparer pour toute l'intégralité de la séance, mais dans une première partie, les parents pour échanger avec moi et avec Pauline et entre eux sur leurs pratiques éducatives en lien avec la nature et interroger éventuellement des biais ou des choses qui ne sont pas forcément pensées ou thématisées et de les interroger de manière un peu réflexive. Et dans le même temps, il y a des activités qui seront proposées aux enfants Enfin, c'est à voir avec les personnes qui seront chargées de l'animation, mais à la fois en extérieur, autour du lieu où on va se retrouver, mais aussi peut-être des activités d'intérieur, éventuellement leur proposer de faire des dessins en lien avec cette thématique de la nature, et ensuite de nous en venir en parler aux adultes ou d'échanger avec les adultes dans un second temps.
Donc ça, c'est pour demain. On redonnera les informations pratiques à la fin de cette émission. On va donc parler de ce travail que tu as mené. Déjà, j'aurais une question qui porte sur les socialisations écologiques. C'est un mot, si on n'est pas chercheur, on n'est pas sociologue, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'on peut le définir ?
Oui, en fait, pour expliquer pourquoi cette expression qui est dans le sous-titre de l'ouvrage, dans ma thèse, j'utilisais l'expression de socialisation à la nature et par la nature. Donc l'idée que ce qui m'intéressait, c'était la façon dont les enfants, en fonction des contextes dans lesquels ils grandissent, évoluent, apprennent, découvrent des choses ou non, développent certains types de rapports au monde, mais au monde dit naturel. En tout cas, à ce qu'on leur présente comme étant la nature. Et en même temps, ce terme de nature, il est assez encombrant sur le plan théorique. En sciences sociales, on a plein de réticences à l'utiliser parce qu'il y a plein de travaux qui montrent que la frontière entre nature et culture, entre le sauvage, le domestique, entre l'urbain, le non-urbain, elle est tout à fait poreuse et difficile à placer a priori. Et qu'il y a toujours, en gros, quand on délimite ce que serait la nature, comme une sorte d'opération où on force un peu les choses, où on impose une catégorie. Et du coup, j'étais un peu mal à l'aise à l'idée de garder cette idée de socialisation à la nature. Pour le dire clairement, pendant ma soutenance de thèse, ça a eu des longues discussions, on était là, qu'est-ce qu'on fait du fait que... Et du coup, en écrivant le livre, la notion de socialisation écologique, elle permettait d'être plus souple et ouverte, elle renvoie du coup à l'apprentissage de certains usages ou rapports à l'environnement au sens large, à des environnements qui peuvent être plus ou moins naturalisés, c'est-à-dire plus ou moins distants de ce qu'on considère comme le cœur de la vie culturelle ou urbaine, et qui sont plus ou moins perçus comme naturels par les parents comme les enfants.
D'accord.
Voilà.
Et donc cette question de la socialisation écologique par les enfants, pour les enfants, comment est-elle venue, comment tu t'es intéressée toi à ce sujet ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une raison, j'allais dire, très liée à ce que je faisais juste avant de faire ma thèse, c'est que je faisais un mémoire de recherche en sociologie de l'enfance sur les sorties au zoo, parce que le zoo fait partie des sorties culturelles les plus pratiquées dans l'enfance et le début de l'adolescence. C'était un travail vraiment sur le rapport aux animaux spécifiquement, mais beaucoup de parents sortaient du zoo et me disaient on vient là parce que c'est pour leur faire voir la nature, ils n'ont pas l'occasion de voir la nature. Donc ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Plus largement, ça renvoie à plein de thématiques pédagogiques et éducatives qui sont déjà anciennes, hein, sur l'importance des apprentissages dans la nature ou par la nature dans l'enfance. Et il y a un vrai regain d'intérêt ces dernières années dans les milieux, dans les pédagogies alternatives au sens large, ou en tout cas dans les réflexions pédagogiques et éducatives sur l'importance du contact des enfants avec la nature. C'est un terme qui revient beaucoup. Et le combo de tout ça, des interrogations qui venaient de mes propres travaux, plus ces questions qui étaient dans l'air du temps, on va dire, ça m'a interrogé et ça faisait un bon point de départ pour mener l'enquête en tant que sociologue et aussi pour du coup interroger un peu les fausses évidences derrière par exemple cette expression de contact avec la nature qui me semblait un peu insatisfaisante sur le plan théorique. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qu'on étudie ? C'est quoi ? Enfin, c'est juste le toucher, la perception, la vue. Et du coup, dès qu'on creuse un peu ou qu'on se pose la question de ce que ça veut dire, c'est en fait des usages et des pratiques de la nature ou de ces choses qu'on appelle la nature qui peuvent être très variables selon les contextes.
D'accord. Donc, tu es parti de ce constat-là et tu es rendu dans 3 écoles maternelles pour mener tes recherches.
Ouais.
Donc, 2 à Paris et 1 dans le sud de la France. Pourquoi ce choix-là ? Déjà, pourquoi le choix de la maternelle,
ouais,
de cet âge-là ?
Le choix de la maternelle, je dirais que dans les travaux de sociologie de l'enfance que je lisais et qui m'intéressaient, je trouvais que tous les travaux qui tendaient à étudier des âges relatifs, enfin, des la petite enfance me semblait passionnant, fascinant, notamment parce que, en termes de socialisation et d'apprentissage, c'est les moments dans lesquels les enfants, par exemple, font l'acquisition du langage. Donc la question de savoir décrire le monde, le nommer, le catégoriser, c'est quelque chose qui est omniprésent, et du coup qui est très présent dans les activités scolaires ordinaires de l'école maternelle. Et ça me semblait être un bon point d'entrée pour aller observer justement la place qu'occupait la nature, sous toutes ses formes et sous tout ce qu'on pouvait mettre derrière, comme support éducatif ou comme enjeu pédagogique. Par ailleurs, plus largement, dans toutes les réflexions éducatives sur cette pédagogie par la nature ou au contact de la nature, ce sont des âges qui sont très souvent ciblés avec l'idée que c'est entre 3 et 6 ans, que c'est un âge particulièrement important pour l'éveil, la découverte, etc. etc. Mmh. Donc ça se justifiait pour ouais, ça, je dirais.
Il y avait cette logique-là également. Et concernant les lieux d'observation, donc ouais. Deux écoles parisiennes, et une dans le sud de la France. Ouais. Pareil, même question, pourquoi ces lieux-là ?
Bah, assez simplement, ou en tout cas, si je devais le dire de manière simple, c'est que je voulais essayer justement d'observer des situations variées, des contextes variés, mais à plein de niveaux différents, c'est-à-dire des variations sociales, de conditions socio-économiques, de lieux de vie, de conditions matérielles d'existence. Et premièrement, déjà dans les deux écoles parisiennes, il y avait une première qui, dans le nord de Paris, accueille un public, disons, assez mixte socialement, avec à la fois des parents de classe moyenne, supérieure, diplômés, des parents qui sont architectes, journalistes, enseignants, psychologues, etc. Et je dirais à peu près 50-50 dans l'école des enfants qui sont plutôt issus des classes populaires, souvent des classes populaires issues de l'immigration, plus ou moins récentes selon les familles, et qui sont dans des niveaux de précarité socio-économique aussi très variables. Donc ça fait une sorte de gradation aussi entre les classes populaires et les classes moyennes. Donc ça, déjà, rien que cette première école m'intéressait beaucoup pour ça. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'enquêter dans une école privée catholique dans l'ouest de Paris, donc dans ces quartiers que, en sociologie, sont souvent désignés comme les beaux quartiers, entre guillemets, de la bourgeoisie économique parisienne. Et là, c'était intéressant parce que c'était un public encore différent, de familles très pourvues en patrimoine, en capital économique, qui ont souvent des résidences secondaires, qui ont l'occasion de prendre plein de vacances. Et donc, c'était intéressant d'aller observer ce qu'était le rapport à la nature des enfants dans ce contexte-là. Et une fois que j'avais fait, on pourrait dire, ces deux lieux d'observation pendant ma première année d'enquête à temps plein, on va dire, dans des discussions avec mon directeur de thèse, on s'est dit que ce serait quand même intéressant d'avoir une comparaison dans un contexte un peu plus rural.
Oui.
Parce que là, c'est deux écoles urbaines. Et du coup, je suis retourné auprès de l'école dans laquelle j'avais fait ma scolarité moi-même. Du coup, dans une... Alors, ce n'est pas une petite commune isolée de 200 habitants. C'est quand même une commune de 6000 habitants dans un contexte où il y a des villes à proximité et des industries pas loin. Mais le territoire environnant est marqué par l'agriculture viticole et par des espaces forestiers directement accolés à cette petite ville que les gens du coin appellent un village, quoi.
Et donc, tu t'es rendu dans ces trois écoles, tu es allé sur les bancs de l'école pour observer comment ça se passait concrètement, ton terrain ?
Ouais. Du coup, dans les trois écoles, j'ai mené des observations du quotidien scolaire, donc dans des journées ordinaires. Hein. Je disais, c'est pas grave si tout n'est pas sur la nature. Je m'intéresse à ce qui se passe et à la place qu'occupe éventuellement ou non la nature dans les activités éducatives ordinaires. Et ça, de manière un peu répétée, ce qui donnait plein d'occasions, et ça, les enseignantes qui m'ont accueilli me disaient, on va organiser du coup une sortie. Donc, il y avait aussi un peu d'enthousiasme autour de ma présence, donc ça donnait plein d'occasions d'observer des choses dans ces moments-là. Et des activités qui étaient organisées autour de cette question de la découverte de la nature, des animaux, mais aussi des sorties plus ponctuelles. Par exemple, dans l'école du Nord de Paris, il y a une classe découverte qui était organisée avec les enfants de grande section pendant 3 jours. Et du coup, ça m'a permis de les accompagner et de voir aussi ce que ça produisait pour certains enfants, de découvrir pour la première fois certains types d'espaces, certains types d'animaux, etc.
Parce que c'est de toute façon présent dans le programme, dans les écoles maternelles, d'être en contact ou d'étudier la nature, voilà, entre guillemets.
Ouais. Oui, dans le programme, ça fait partie des attendus ou des choses qui sont considérées comme des incontournables, hein, apprendre des choses élémentaires sur la faune et la flore, sur quelques phénomènes naturels, le temps qui passe, les saisons, etc. Et ça donne aussi plein de supports matériels qui sont, j'allais dire, comme des incontournables de la crèche à la fin de l'école maternelle, les pommes de pin, les feuilles mortes en automne qui servent de support pour des activités créatives. Donc il y a cette espèce d'omniprésence, même si c'est pas sous la forme d'une nature sauvage dans laquelle on a l'occasion d'aller, et c'est ce que revendiquent plutôt des pédagogies qui insistent sur le contact direct, immédiat et l'immersion dans des espaces naturels. Mais y compris dans des classes, on pourrait dire classiques, la nature et ses représentations, les représentations de la nature ont une place importante.
Et tu... Donc, quelle était ta question de fond qui orientait ton observation?
La question de fond, c'était... est-ce qu'on retrouve, et si oui, sous quelle forme, un effet des inégalités sociales telles qu'on les observe dans d'autres domaines et dans d'autres types de pratiques culturelles? Parce que voilà, la sociologie de l'enfance et des inégalités dans l'enfance, par exemple, je pense à un ouvrage collectif récent, de 2019, qui s'appelle « Enfance de classe », qui est revenu sur toute une série de domaines de l'existence des enfants dans lesquels on voit les effets des inégalités matérielles, économiques, mais aussi des différences culturelles, de la question des lieux de vie et de ce qui est accessible ou non dans l'expérience des enfants. Mais du coup, dans toutes les thématiques transversales qui sont abordées dans l'ouvrage, la nature n'en fait pas partie. Elle est parfois évoquée en creux dans certains récits parce que ça fait partie de ces supports de découverte qui sont très légitimés par l'école, mais pas que, dans les évidences de ce que les enfants doivent apprendre à ces âges-là. Et du coup, ça me semblait intéressant d'aller faire une sorte de test sociologique de « Ok, on a étudié plein de choses dans plein de domaines, je vais aller voir ce que ça donne pour la question de la nature ».
Alors, je donne déjà un peu une réponse, mais voilà, dans les résultats, dans le livre, ce que tu dis, c'est que oui, effectivement, l'origine sociale influence les connaissances et du coup le rapport à la nature, mais aussi le rapport à l'école. Donc, je donne déjà plusieurs informations sur lesquelles on va revenir, mais est-ce que tu peux justement nous expliquer ce résultat ?
Oui, il y a plusieurs angles de réponse parce que justement les inégalités, elles sont plurielles, elles se jouent à plusieurs niveaux. Il y a, comme je le disais, des questions strictement matérielles, c'est-à-dire à quoi on a accès et à quel prix, c'est-à-dire qu'est-ce que ça coûte d'accéder à la nature ou à certaines formes de nature. Et en quoi les enfants, selon l'endroit où ils vivent et selon le contexte socio-économique dans lequel ils grandissent, ont plus ou moins cette possibilité ou cette expérience. Et là, pour le coup, il y a des grands écarts sociaux entre les enfants qui grandissent dans les contextes les plus précaires, qui, du coup, à 4 ou 5 ans, sont jamais partis en vacances, comme je le disais, découvrent parfois pour la première fois, via l'école ou via des sorties organisées par des associations, certains types d'espaces, et d'autres pour qui ces espaces, ces activités, ces moments de découverte sont... j'allais dire très familier parce qu'ils ont eu l'occasion à moult reprises, chaque année, plusieurs fois par an, parfois les week-ends, avec des grands-parents, de la famille ou avec leurs parents, de découvrir des choses qu'on leur présente comme étant la nature. Et que d'ailleurs, ce sont des enfants, notamment dans l'école où les enfants sont issus des classes supérieures très aisées, ce sont des enfants qui... quand je me présente à l'école, ils essayent chacun de placer tout ce qu'ils savent. Ils sont presque, voilà, c'est moi, j'ai un livre sur la nature à la maison, j'adore, je connais les félins par cœur, etc. Et donc il y a une sorte de petite compétition comme ça pour montrer que c'est un domaine avec lequel ils sont à l'aise.
Oui, une valorisation alors de ces connaissances-là. Et donc ça, c'est en fonction donc, de ce que tu disais, du capital économique au départ. Ouais. Et tu disais qu'il y avait d'autres entrées, d'autres observations d'inégalités.
Oui, et du coup, ce que je développe dans d'autres... Enfin, ça, c'est plutôt dans le premier chapitre. Et dans le deuxième et le troisième, je montre qu'il y a aussi un effet propre, on pourrait dire, du capital culturel. et donc des diplômes des parents, de leur trajectoire, de leur formation, qui souvent jouent aussi sur leur propre regard sur la nature, leur manière de valoriser ou non certains types d'appropriation éducative. Par exemple, justement, l'attention à une sorte de connaissance proto-scientifique un peu sur les choses naturelles qui est très valorisée dans l'espace scolaire. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les familles les plus diplômées, qui sont en fait, ça pour le coup, comme je le disais, ça retrouve des résultats sociologiques qu'on observe dans d'autres domaines, hein, dans la construction du rapport à l'art ou à d'autres pratiques culturelles. Mais du coup, c'est très perceptible dans la manière dont ces parents investissent la nature, qui du coup n'a pas forcément besoin d'être, notamment pour les parents urbains, j'allais dire faute de mieux, ça n'a pas forcément besoin d'être la nature grandiose ou des formes de nature qui dans d'autres contextes sont perçues comme les plus légitimes, les plus valorisées. Mais ça peut être aussi les petites choses du quotidien, justement les pommes de pin, tous ces objets naturels qui servent et qui peuvent être enrôlés ou mobilisés dans des activités créatives, d'éveil, bref. On voit assez bien comment ça devient toute une série de petits supports éducatifs. Les choses naturelles, qui du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça développe chez les enfants. Parce qu'il y a souvent cette idée que la nature, ça développe une sensibilité, mais quel type de sensibilité ? Selon les familles et les contextes, ça va être des sensibilités plus proto-scientifiques, plutôt créatives et artistiques, mais dans tous les cas, on pourrait dire que c'est des sortes de regards cultivés sur la nature qui se transmettent.
Et pour les classes populaires, alors, quelle différence on observe ?
Ça dépend là, assez largement donc, des trajectoires des parents. J'essaye dans le chapitre en question de ne pas généraliser, tout comme au sein des classes supérieures, c'est très variable selon leurs ressources et leurs trajectoires. On observe des différences de ce type-là aussi au sein des classes populaires, qui ont par exemple un ancrage plus ou moins marqué en rapport par exemple aux espaces ruraux. Et par exemple, aux classes populaires rurales, dans leur famille ou dans leur connaissance. Et donc ça se traduit parfois par des usages assez, communs de certaines pratiques de nature, comme aller aux champignons, cueillir des choses, connaître les principales plantes dont on peut faire usage dans le quotidien et dans l'environnement immédiat. Mais c'est des manières d'investir l'environnement autour de soi, autour de chez soi, qui ne sont pas toujours thématisées justement sur le même mode que dans les classes supérieures, avec une perception parfois, souvent moins contemplative de cette nature, pour le dire un peu schématiquement, moins quelque chose qu'on regarde de l'extérieur et qu'on admire, c'est plus quelque chose dans lequel on est et avec lequel on a des interactions. Mais du coup, ce qui se traduit aussi par souvent une sorte de désacralisation aussi de cette nature du quotidien. Bon, oui, c'est là, mais par exemple, quand les enfants ramènent une pomme de pin, c'est oui, on va la mettre au feu. Il y a un côté, j'allais dire, beaucoup plus terre à terre, pratique. Et aussi où les espaces naturels de proximité, dans ces cas-là, sont souvent présentés comme des endroits où on peut faire des choses, ou être avec d'autres gens, partager des choses, plus que de vivre une sorte d'expérience de connexion individuelle avec la nature, avec un grand N, quoi.
Et donc ces observations, qu'est-ce que ça implique pour les enfants en maternelle, concrètement, quelles sont les différentes implications, notamment à l'école ?
Là aussi, ça rejoue sous une forme spécifique des choses qui ont été montrées dans un certain nombre de travaux de sociologie de l'école, et de l'école maternelle en particulier. Et notamment le fait qu'une grande partie des apprentissages, comme je le disais tout à l'heure, porte sur le vocabulaire et la capacité à savoir nommer les choses. Et une grande partie des activités, y compris quand elles ne sont pas centrées sur le vocabulaire à l'école maternelle, passe par des formes un peu dialoguées de questions-réponses, où c'est un aller-retour permanent. Les enseignants, souvent les enseignantes, demandent qui reconnaît ça, qui peut me dire ce que c'est ça. Ce qui, au fond, est une forme d'apprentissage qui reproduit un modèle familial dans les classes moyennes et supérieures, où on s'adresse à l'enfant pour le faire apprendre et interagir. Seulement, du coup, devant des classes où il y a beaucoup d'enfants, et quand c'est des classes où tous les enfants n'ont pas eu les mêmes expériences sociales, les enfants se rendent compte, en fait, de la valeur scolaire inégale de leur savoir et de leurs expériences. Et ça, ça se traduit par plein de scènes quotidiennes dans les écoles où ce sont souvent les mêmes enfants, souvent ceux qui sont issus de familles diplômées ou dotées en ressources sociales et culturelles, qui ont les moyens de se distinguer, d'avoir les bonnes réponses, parfois au point que les enseignantes les ont identifiées comme telles, elles me les présentent comme des enfants très éveillés, très stimulés, et elles s'appuient parfois sur eux en disant « personne n'a la réponse, mais quand même Léon, tu sais, non ?» Enfin, avec ce côté, on sait qu'il sait. Enfin, bref, y a ce genre d'interaction qui s'installe. Et à l'inverse, du coup, les enfants qui ont l'habitude ou qui prennent l'habitude de pas savoir ou de parfois essayer de savoir mais de se tromper et d'avoir les mauvaises réponses, c'est évidemment, quand je dis ça, il y a un côté où c'est normal de se tromper pour apprendre. Mais ce que ça produit dans les effets de groupe, dans les effets de classe, c'est que les enfants apprennent à se positionner les uns vis-à-vis des autres. Et ils sentent très bien ça, notamment, je l'ai ressenti, il y a une des filles dans l'école du Nord de Paris qui est une des meilleures élèves de la classe. Et quand je fais l'entretien avec sa mère dit « Ah !» et elle me dit que sa meilleure copine, elle connaît pas beaucoup de mots. Et donc, à 5 ans, elle se rend compte que sa copine connaît moins de mots qu'elle et que du coup, il faut qu'elle lui explique des choses, quoi.
Donc ça, tu faisais des entretiens avec les enfants également ?
Ouais. Mmh. Donc j'ai fait dans les trois écoles, j'ai fait les observations dont on parlait tout à l'heure. J'ai rencontré à chaque fois une quinzaine de parents dans chaque école pour faire des entretiens approfondis sur leurs pratiques et la place qu'occupait ou non la nature dans leur quotidien avec les enfants. Et ensuite, j'ai fait des activités avec les enfants pour les faire parler et pour échanger plus directement. D'abord, des activités de dessin. Dans les trois écoles, avec les enfants de grande section, je leur demandais de me dessiner la nature et ensuite de me raconter ce qu'ils avaient dessiné, etc. Et souvent, c'était intéressant parce qu'on les voyait aussi échanger entre eux. Pourquoi t'as dessiné ça ? Mais ça, c'est pas la nature. Mais si, une voiture, c'est la nature. Moi, quand j'y vais à la forêt, tu crois que j'y vais comment ? Enfin, des choses comme ça. Donc ça, c'était très drôle de les voir interagir comme ça. Et après, j'ai aussi conçu un petit jeu de cartes avec des photos d'animaux d'un côté et après des photos de choses qu'on peut trouver dans la nature, des pommes de pin, des fleurs, des coquillages. Et à chaque fois, ces jeux de cartes, je leur faisais passer individuellement pour faire des sortes de petits entretiens questionnaires avec chaque enfant. Et ça me permettait de leur demander lesquels sont tes préférés, pourquoi tu les aimes bien, lesquels t'as déjà vu en vrai, avec qui, à quelle occasion. Donc ça donnait plein de récits intéressants sur ces choses-là.
Oui, donc il fallait lire entre les lignes un petit peu. Ouais. C'est pas comme avec un adulte où on fait un entretien, on pose des questions directes.
Non, ouais.
De ce travail et de ce livre, donc, tu en tires quoi sur justement cette inégalité, finalement, qui s'observe dans ce rapport à la nature, mais aussi du coup dans sa valorisation à l'école et dans les éducations dites alternatives. Toi, t'en tires quoi, voilà, par rapport à tout ça?
Non, mais à la fin du livre, je dis que j'ai toujours un rapport un peu compliqué quand il s'agit de se prononcer de manière un peu normative. À ce côté, moi, je documente, j'observe, je dis ça se passe comme ça, c'est quand même intéressant de voir que ça se passe comme ça. Ensuite, quand il s'agit de dire aux gens comment il faudrait faire ou pas faire, je suis plus mal à l'aise. En tout cas, il me semble quand même que c'est intéressant toujours de proposer ce genre de regard ou d'éclairage sociologique, ne serait-ce que pour, et on verra samedi si ça prend, mais que les gens s'interrogent et se contentent pas. Je dirais, c'est par exemple, moi je suis absolument pas, à titre personnel, contre le fait que les enfants découvrent et apprennent grâce, par, dans la nature, au contact, quel que soit le terme, enfin, quelles que soient les activités que ça implique de la nature. Mais simplement, je trouve que du coup, ça mérite qu'on s'interroge. Je trouve qu'en gros, c'est l'engouement pédagogique autour de ces questions donne en fait une bonne occasion aux parents, aux éducateurs et au monde de l'éducation en général de s'interroger sur les finalités de l'éducation. C'est-à-dire, pas se contenter d'une image positive de ce support un peu vague qui serait la nature et une sorte de fourre-tout de bienfaits éducatifs qui ferait son travail par elle-même, mais justement de se demander pourquoi et qu'est-ce qu'on va chercher dans la nature. Ce qui n'est pas toujours évident, au sens où parfois, du coup, quand on dit on valorise le contact avec la nature, du coup, ça permet de ne pas dire pourquoi et quel type de... quel type de valorisation de la nature et de ses usages on fait. Et du coup, moi, pareil, si on prend un pas de recul, en fait, les enfants peuvent être au contact de la nature et en faire des choses très différentes, que ce soit le jeu libre et l'exploration qui est valorisé dans les modèles de pédagogie alternative, n'ont pas grand-chose à voir avec la découverte de la nature, qui est pourtant un contact très fort, du fils d'un chasseur technicien forestier que j'ai rencontré dans le sud de la France, et dont le père me dit « Ah, bah oui, j'ai dépecé un cerf devant lui, et ça lui fait rien, il a pas peur. » Et bah oui, là, on va dire, c'est du contact, quoi. Je veux dire, c'est... Ah bon, avec un instrument, mais il y a un côté très, très proche, viscéral, quoi, de la nature. Mais du coup, ben, en fait, on voit bien que ça renvoie à des styles éducatifs, à des valeurs, à des choses qui sont incarnées dans la manière dont on s'approprie la nature, qui peuvent être très différentes. Et c'est aussi le cas, on voit un peu dans cet exemple, pour les questions de genre, par exemple. Le fait que, bah oui, dire on va mettre les enfants au contact de la nature, mais en valorisant, en accompagnant quel type d'usage, quel type de pratique, ça peut être des choses très différentes là aussi.
Donc finalement, c'est pas tant juste le contact avec la nature, mais l'éducation qu'en font les adultes, ouais, autour, et ce qu'ils transmettent, eux, finalement, dans leur propre rapport à la nature.
Bien sûr. Et ça aussi, c'est souvent une manière de dire, ça, je le dis un peu dans la conclusion, parce qu'il y a aussi tout l'enjeu écologique. Évidemment, on en a
moins parlé, mais voilà.
C'est qu'il y a toujours cette idée aussi que promouvoir ou faire en sorte que les enfants soient sensibilisés à l'environnement, c'est aussi une manière de faire d'eux des écolos, les écolos de demain, quoi. Ouais. Plus sensibles à ces questions. Et il y a deux choses. C'est d'une, je trouve qu'il faut faire attention avec l'évidence que ce serait efficace, parce qu'il y a plein de gens qui ont grandi au contact de la nature et qui ne sont pas spécialement écolos. Dans mon enquête, beaucoup de parents très dominants, très dotés en capital économique, travaillent dans l'industrie pétrolière, en rapport très distant avec l'écologie, au sens de l'écologie politique, et pour autant valorisent leurs souvenirs d'enfance dans les jardins familiaux, la découverte de la nature, de la montagne, etc. Donc déjà, il y a ce côté... À nouveau, c'est considérer que c'est évident que le simple contact, ça produit l'amour, pour dire vite, de la nature, ou la volonté de la protéger. C'est un raisonnement qui me semble un peu simpliste quand on va regarder un peu ce que ça veut dire concrètement que de découvrir la nature ou non. Et le deuxième volet de ma réponse, c'est ce que je dis un peu dans la conclusion, c'est qu'en fait, il y a un petit côté aussi, des fois, un peu presque hypocrite de la part des adultes, de dire « Bon, bah, du coup, c'est génial, les enfants de demain seront mieux que nous, et du coup, on s'enlève les mains, on fait confiance dans la génération qui arrive. Non, mais ils seront tout mieux que nous, c'est génial. » Mais du coup, c'est aussi une manière d'invisibiliser le fait que, en fait, les enfants passent beaucoup de leur temps à essayer de faire comme les adultes, notamment à ces âges-là. En tout cas, moi, j'étudie des enfants entre 3 et 5 ans où les jeux sont beaucoup des jeux d'imitation, des jeux de faire comme, et où ce qui compte pour les enfants, c'est aussi beaucoup ce qu'ils comprennent qui compte pour les adultes. Et du coup, ça me semble un peu illusoire que, voilà, d'espérer qu'ils feront tout mieux, quoi. Si les adultes ne changent pas à leur hauteur, d'une certaine manière, leur rapport à l'environnement, à l'écologie, à ces choses-là.
Oui, d'où l'importance, ce que tu disais, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut transmettre. Exactement. Dans cette éducation-là, en lien avec la nature. Et ce que tu disais sur les différences genrées également, je rebondis là-dessus. Je disais que dans ce livre, tu parles d'observations à peu d'âges différents, mais de rapports à la nature qui vont être non genrés et qui passent d'un coup genrés. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu observes fortement.
Ouais, c'est des âges, là aussi, l'école maternelle, et ça commence même pour les enfants qui sont en crèche. En tout cas, les activités et les espaces collectifs d'accueil d'enfants sont des moments où les enfants découvrent aussi ce qui les rassemble et les différencie. Et du coup, c'est un moment de construction ou de cristallisation des perceptions que les enfants ont de ces différences de genre. Et ça passe, là aussi, pas que, mais en partie par certains rapports aux choses naturelles et aux manières de les investir ou de se les approprier. Et pour prendre un exemple, il y a justement, quand je demandais aux enfants de me dessiner la nature, dans l'école, en contexte rural, il y a plusieurs garçons qui dessinent des arbres coupés. Et donc, à la fin, il y a une activité de mise en commun. Je dis, qui a dessiné quoi? Et à un moment, il y en a un qui dit, moi, j'ai dessiné un arbre, mais il est coupé. Je dis, ah, bah, pourquoi t'as coupé l'arbre? Alors là, c'est marrant, il commence à me dire, mais parce que j'aime pas les arbres, parce qu'on peut pas faire du vélo. En gros, c'est quelque chose qui limite, il faut enlever, etc. Donc déjà, il y a un truc d'affirmation de j'aime les véhicules, j'aime les trucs qui me permettent d'aller vite, et l'arbre, c'est un frein, donc j'aime pas. Et là, ensuite, ça lance surtout au sein du groupe de garçons une sorte de petite compète où tout le monde se met à dire « Mais moi, j'ai coupé un mur, moi, j'ai coupé ça, moi, j'ai coupé ci. » Et ça devient un jeu, une sorte de démonstration masculine de pouvoir dire « Qu'est-ce que j'ai coupé etc. » Et à la fin, il y a une fille qui prend la parole et qui dit « Bah non, moi, j'aime bien les arbres, je peux les prendre comme ça dans mes bras. » Bref, ça met en scène et ça renforce dans l'interaction des processus de distinction de genre où les filles se construisent face aux garçons et les garçons par distinction de ce qu'incarne la féminité, par exemple.
Et ça, c'est... Ils ont quel âge ça,
là, c'est des enfants qui avaient 5 ans.
5 ans.
Ouais. Et en même temps, voilà.
Ouais, ce que je voulais dire, tu as observé l'inverse, plus jeune. Non, vas-y,
ouais,
vas-y.
C'est beaucoup moins marqué pour les enfants de 3 ans. Mais on voit que ça. Enfin, il y a plein d'occasions pour cette différence de se faire à ces âges-là, ne serait-ce que par les différents supports. Le fait que les jouets, les choses qui sont accessibles sont plus ou moins genrées, a priori, et que du coup, ça oriente presque spontanément ou ça facilite l'appropriation privilégiée par les garçons de certains types d'outils, d'instruments, en lien avec les jouets de bricolage, etc. Mais plus largement, même dans des espaces où justement les choses sont peu... comment dire, stéréotypiquement genré, comme dans
comme
les espaces naturels.
Voilà,
en fait, les enfants arrivent avec des représentations assez claires, ou en tout cas les construisent à ces âges-là, de ce qui intéresse les parents, par exemple. Et ce truc des arbres coupés, dans ce contexte particulier, je l'ai un peu moins observé, par exemple, dans les écoles urbaines, ben je me suis dit, c'est aussi quelque chose qui illustre le fait, parce que j'ai plusieurs entretiens avec des parents où les parents le disent, c'est les pères qui taillent. C'est les pères qui taillent avec la tronçonneuse, avec les gros outils dans le jardin, là où les mères s'occupent souvent d'autres aspects de la nature ou s'intéressent d'une autre manière au vivant.
Eh bien, merci, Julien Vitores. Donc, on vous invite, auditeurs et auditrices, à découvrir ce livre. J'imagine qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas dites à découvrir dans ce livre. Donc, je le rappelle, c'est « La nature à hauteur d'enfant » de Julien Vitores, aux éditions La Découverte. Et puis, demain, l'atelier dont on parlait, demain samedi, à la librairie La Gargouille ?
Non, au Centre Montagne.
Ah, au Centre Montagne.
À Villars-Saint-Pancras.
Au Centre Montagne, à Villars-Saint-Pancras, donc chez toi,
c'est
Pauline.
Ça. Et la mairie nous prête gracieusement le lieu, donc merci à la mairie de Villars-Saint-Pancras.
Et merci à tous les deux d'être venus donc, nous présenter cet événement et puis nous présenter ce livre.
Merci pour l'invitation.